Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance Burkina Faso, assureur officiel du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Parler des maladies rares, c'est un exercice à la fois complexe, mais indispensable. Complexe parce que ces maladies se comptent par milliers et le nombre de patients pour chacune de ces affections est à l'inverse limité, ce qui rend plus difficile le diagnostic et le traitement. Dans de nombreux cas, après des années d'errance, quand la maladie est enfin identifiée, la prise en charge du patient vise à limiter les symptômes et non à guérir l'affection. Parler des maladies rares, c'est aussi indispensable pour sensibiliser le grand public, faire passer l'information, y compris auprès des soignants, donner la parole aux patients et stimuler la recherche. Pour comprendre que chacun des cas mérite que l'on s'y arrête, pour comprendre, prendre soin et aussi éclairer, réconforter les parents, car beaucoup de ces atteintes sont génétiques et se déclenchent dès l'enfance. La prise en charge de ces maladies rares donne lieu alors à une alliance entre le jeune patient, sa famille et l'équipe médicale, tous résolus à avancer sur la voie du soulagement, d'une amélioration de la qualité de vie. Et grâce au travail des chercheurs et au financement des projets, l'espoir de guérison peut devenir pour certains, certaines, une réalité. Parler des maladies rares, un exercice complexe aussi pour le présentateur, la présentatrice que je suis, parce que souvent le nom est compliqué à prononcer comme à retenir. Une spécialiste avec nous dans les studios de RFI, professeure Céline Gréco, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la chef du centre d'évaluation et de traitement de la douleur à l'hôpital Necker Enfants Malades à PHP à Paris, responsable d'une équipe de recherche aussi sur cette douleur de l'enfant à l'Institut Imagine. Maladies rares, maladies génétiques, avec l'éclairage du docteur Benoît Mazel. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes généticien au CHU de Dijon. Et puis, parole de patient engagé avec vous, Marc Thiellet. Bonjour. Marc Thiellet, qu'on va retrouver tout à l'heure. Il est membre de l'association du syndrome Nel Patella. Il nous expliquera la nature de cette affection qui le concerne directement. Le regard d'un spécialiste qui prend en charge cette fois ces maladies rares en Afrique centrale. En deuxième partie d'émission, on va retrouver le professeur Alexis Elira Dokekias, qui est chef du service d'hématologie du CHU de Brazzaville au Congo, directeur général du Centre national de référence de la drépanocytose et des maladies rares, Antoinette Sassou Nguesso.
Priorité santé sur RFI.
Maladie rare quand elle touche moins d'une personne sur 2000, on en dénombrerait près de 7000 et peut-être plus. Parmi elles, des maladies rares de la peau qui peuvent avoir un impact très sévère sur la qualité de vie, on va le dire, en raison des symptômes. Professeur Céline Gréco, vous êtes précisément spécialiste de la douleur pour ces atteintes dermatologiques notamment. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelques-unes de ces affections que vous prenez en charge ?
En fait, à Necker, on est centre de référence des maladies génétiques à expression cutanée. Donc, on est amené à avoir des maladies extrêmement rares, des maladies qui touchent un enfant sur un million. Par exemple, l'érythermalgie primaire. Alors, pour vous décrire cette maladie, c'est lié à une mutation. Et en fait, les enfants ont plusieurs fois dans la journée des poussées terriblement douloureuses au niveau des mains et des pieds qui deviennent d'un coup très rouges, très chauds. Et pour vous représenter la douleur, c'est comme si vous mettiez votre main sur un fer à repasser chaud sans pouvoir l'enlever. On a aussi des enfants qui souffrent d'épidermolyse bulleuse, dystrophique récessive. La peau est tellement fragile qu'elle se fend, qu'elle s'ouvre. Et donc, c'est des enfants qui ont des soins terriblement douloureux et extrêmement chronophages. C'est des bains qui durent plusieurs heures tous les jours pour enlever les pansements, pour nettoyer les plaies, pour remettre les pansements. Donc, c'est beaucoup de maladies comme ça qui touchent peu d'enfants. Mais au final, beaucoup de maladies, comme vous le disiez, c'est presque 4% de la population qui est atteinte de maladies génétiques. Et c'est souvent les maladies de peau sont pourvoyeuses de douleurs vraiment très sévères.
Alors, des noms compliqués, je le disais en souriant, ça n'a rien de drôle, mais il y a des surnoms. Maladie des enfants de feu, enfants papillons. Ces appellations, c'est quelque chose qui est bien vécu ou c'est stigmatisant ?
C'est des appellations qui sont données par les associations de parents.
Oui, donc ça passe.
Et je pense que peut-être ça aide à adoucir et puis à améliorer aussi, comme on disait, le regard des autres finalement sur ces maladies qui sont très affichantes.
Alors bien évidemment, il peut y avoir, j'imagine, des degrés différents d'atteinte. Est-ce qu'il y a des formes légères pour ces maladies très graves ou pas ? Ou c'est toujours des formes sévères ?
Souvent, c'est des formes très sévères qui s'aggravent en plus avec le temps, puisque la mutation va être responsable de la pathologie. La mutation, elle n'est pas à moitié, quoi. Donc souvent, c'est sur les maladies de peau qu'on prend en charge à Necker. En tout cas, c'est vraiment des atteintes sévères.
Alors, votre spécialité, ce symptôme de la douleur pour ces maladies, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Elle est présente tout le temps, la douleur, ou elle va fluctuer ? J'imagine bien évidemment qu'on a recours à des antalgiques, des antidouleurs.
Alors, on a plusieurs problèmes. C'est-à-dire que c'est des maladies qui sont évolutives, qui n'ont pas de traitement curatif aujourd'hui et qui sont pour la majorité pourvoyeuses de douleurs dès l'enfance. Le problème en France, mais d'ailleurs à l'international, c'est qu'on a très peu de médicaments antalgiques qui ont une autorisation de mise sur le marché pour l'enfant. Et si je vous résume, on est en 2025, on envoie bientôt des gens sur Mars et on a 3 molécules qui ont une autorisation de mise sur le marché pour les enfants petits, le doliprane, l'ibuprofène et la morphine. Donc en fait, on a vraiment besoin de travailler, de développer la recherche pour trouver des nouveaux traitements antalgiques.
Mais ça veut dire qu'on peut avoir des enfants qui sont sous morphine à plein temps ?
Alors, on essaye, non, justement. Et c'est un peu notre problème, c'est qu'on est contraint d'utiliser des préparations magistrales, c'est-à-dire des molécules qu'on repositionne avec des dosages qui sont adaptés à l'enfant, et beaucoup de traitements hors AMM, c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché. Par exemple, pour les douleurs neuropathiques, c'est des atteintes des petits nerfs de la peau, on est obligé d'utiliser des antidépresseurs ou des antiépileptiques qui sont testés chez l'adulte, mais pas chez l'enfant, et qui donc n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché chez l'enfant. Donc on est toujours obligé de s'arranger avec ce qu'on a, tant qu'on n'a pas mis en place des traitements dédiés à ces enfants.
Professeur Gréco, on peut imaginer que dans la plupart des cas, les parents, les patients n'ont jamais entendu parler de ces maladies avant le diagnostic, ou c'est pas le cas parce qu'il y a la dimension génétique et donc héréditaire ?
Bah, vous savez, la semaine dernière, j'ai vu une patiente de 37 ans qui a un syndrome de Nel Patella, donc la pathologie dont est atteint Marc, qui va nous rejoindre. Cette patiente a 37 ans, le diagnostic date d'il y a un an.
Ça veut dire qu'elle a souffert tout ce temps, ou alors on lui a donné à la limite des mauvais médicaments pour ses problèmes ?
Bah, en fait, comme c'est des maladies génétiques, souvent les grands-parents sont atteints, les parents sont atteints, donc finalement l'enfant atteint, c'est familial, quoi. Et finalement on dit c'est comme ça, et finalement une fatalité, et donc les diagnostics parfois sont très tardifs.
Est-ce qu'en dehors des services spécialisés, parce que ce que vous nous dites, c'est qu'aussi un certain nombre de soignants sont passés à côté, vous êtes dans un hôpital de référence, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une meilleure diffusion de l'information auprès des équipes médicales ?
Oh, quand même, oui, parce qu'avec l'essor d'Internet et des associations de patients, sur Google, quand vous tapez vos symptômes, il y a quand même une petite chance que vous tombiez sur des associations qui peuvent vous aider. Et finalement, les patients sont des patients qui sont experts et qui finalement orientent aussi les médecins parfois sur la pathologie.
Alors précisément, ce qu'on entend aussi quand vous nous dites, une femme de 37 ans qui a connu son diagnostic seulement il y a un an, c'est l'errance diagnostique. Ça aussi, c'est un grand point commun des maladies rares dont on parle aujourd'hui ?
Oui, parce qu'elles sont peu connues et donc il faut vraiment que le patient participe finalement à la recherche du diagnostic. Donc ça, voilà, et on manque de connaissances, mais c'est normal, il y a tellement de maladies rares, par exemple, on prend des patients en charge qui souffrent d'une maladie qu'on appelle le syndrome d'Olmsted. On en connaît 4 en France. Donc, c'est difficile de...
C'est-à-dire qu'on peut imaginer que les parents arrivent avec des dossiers qu'ils ont complétés eux-mêmes, avec tout le parcours de l'enfant.
Souvent.
Ça devient des spécialistes.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette alliance avec les parents qui sont des parents experts dans la maladie de leur enfant.
Alors, 80% de ces maladies rares ont une origine génétique. D'ailleurs, l'essentiel de celles que vous prenez en charge, vous aussi, à Necker. On retrouve en ligne le docteur Benoît Mazel. Vous êtes donc généticien au CHU de Dijon, maladie d'origine génétique. Certains nombres d'entre elles font d'ailleurs l'objet d'un diagnostic chez le nouveau-né en France dans le cadre du programme national néonatal. Docteur Mazel, il y a 13 maladies graves de l'enfant qui sont ainsi dépistées, même si vous n'aimez pas trop le terme de dépistage. Pourquoi ?
Non, c'est pas tellement le terme de dépistage qui nous embête. La question est néanmoins que actuellement le dépistage de ces pathologies rares, voire ultra rares, est très discuté en France et pose un certain nombre de questions éthiques. Jusqu'où est-ce qu'on va ? Quel type de pathologies on dépiste ? Par exemple, des pathologies qui pourraient être à révélation adulte. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller les dépister chez un nouveau-né, sachant que pendant plusieurs années, il n'y aura aucune prise en charge particulière puisque l'enfant sera asymptomatique. Et puis, se pose aussi la question du, voilà, de de l'angoisse familiale, de la détresse que ça peut impliquer. Et donc tout ça est très discuté actuellement. Et il est possible qu'on passe de 13 maladies à plus que ça dans les prochaines années. Mais encore une fois, c'est en cours de discussion.
Ça pose un certain nombre, on peut l'imaginer, de questions éthiques aussi. On a eu un plan de lutte contre les maladies rares qui vient tout juste d'être annoncé le 25 février. Ça va déboucher sur l'installation d'une centaine de nouveaux centres de référence. J'imagine des améliorations aussi sur le plan génétique. Pour vous, c'est quelque chose d'important ?
Tout à fait, oui. On est souvent, comme vous le disiez, en échec diagnostique pour un certain nombre de patients. Néanmoins, il y a eu un essor assez incroyable ces dernières années, avec notamment l'accès au séquençage génomique, qui permet maintenant d'obtenir un diagnostic génétique chez à peu près un patient sur deux. Tout ça est à moduler en fonction de la pathologie, bien sûr. Mais néanmoins, actuellement, on essaye de promouvoir cette information auprès des patients, auprès de leurs familles, auprès des professionnels de santé, hein, y compris les professionnels de premier recours, médecins généralistes, médecins traitants, pédiatres, pour expliquer, informer les familles de tous ces progrès qui ont été faits, que ce soit sur le plan technologique, avec les nouvelles analyses d'analyse, et également en termes de connaissances scientifiques, puisqu'on découvre chaque année plusieurs nouvelles maladies rares. Et on souhaiterait informer à grande échelle que les patients pourraient bénéficier aujourd'hui d'un diagnostic qui n'aurait pas pu être posé auparavant, du fait des limitations techniques et des connaissances scientifiques. Et c'est un peu l'objectif de la campagne nationale qui est lancée actuellement à l'initiative de la filière de santé maladies rares pour les anomalies du développement.
Alors, à côté de l'aspect biologique, on a bien compris tous ces tests, ces analyses, ce dépistage, à côté de la recherche génétique, il y a aussi la dimension clinique, quand il faut notamment annoncer aux parents un diagnostic pour une maladie comme celle dont on parle aujourd'hui. On a compris, c'est un véritable fardeau, hein, faut le dire. Docteur Benoît Mazel, est-ce que c'est aussi quelque chose qui incombe à vous, les généticiens ?
L'annonce diagnostique ?
Oui.
Oui, bien sûr. Nous, on reçoit les patients qui nous sont adressés par un médecin spécialiste ou non, qui présentent une suspicion de pathologie génétique. Notre rôle, c'est de les examiner, d'essayer d'orienter le diagnostic, et puis ensuite de choisir les meilleures analyses qui pourraient permettre d'identifier les causes moléculaires à cette pathologie. Et une fois que les résultats sont obtenus, c'est bien sûr à nous de rendre le résultat aux patients et à sa famille, d'annoncer le diagnostic, puisque ça peut permettre aussi de rediriger le diagnostic une fois qu'on a un diagnostic moléculaire, d'expliquer un peu la prise en charge au patient, et puis bien sûr d'apporter un conseil génétique aux familles, puisque quand on parle de génétique, on parle souvent d'hérédité, et donc plusieurs personnes peuvent être concernées.
Mais on peut dire que c'est un véritable grand écart, je vous entends parler, vous avez un langage assez technique, vous êtes vraiment un spécialiste, et il y a cette dimension émotive, affective, d'annoncer cette nouvelle aux parents. Des fois, ça soulage, parce qu'aussi, on ne savait pas ce qui se passait, et ça permet d'éclairer. Mais en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Est-ce que c'est quelque chose, une chose à laquelle vous êtes préparé pendant les études en génétique, d'avoir justement ce passage à l'annonce ?
Bien sûr, on a des formations. Alors, dès même le début des études médicales, pour d'autres annonces, hein, y compris non génétiques. Mais c'est aussi l'expérience qui joue. Mais on a effectivement quand même des initiatives qui se mettent en place sur ces dernières années pour former les étudiants au plus tôt à ces annonces, à l'impact que ça peut avoir pour les familles, que ce soit positif ou négatif, parce que comme vous le disiez, des fois c'est un soulagement et des fois c'est très compliqué pour certaines familles, mais aussi l'impact pour le professionnel de santé, parce que c'est pas toujours évident de faire ces annonces diagnostiques.
On peut l'imaginer. En tout cas, c'est vrai qu'en génétique, dans le domaine de la santé, de nombreuses innovations sont annoncées. On voit ça en lisant les journaux, notamment, on l'a vu récemment dans le domaine, par exemple, de la drépanocytose. Est-ce que depuis que vous exercez, vous en avez vu des progrès concrets qui concernent les maladies rares, de votre point de vue de généticien ?
Alors complètement. Moi, je suis arrivé en 2019. 2019, c'était le tout début de l'implémentation du séquençage génomique en France. Et on a vu vraiment exploser le taux de diagnostic chez nos patients. Donc, on a pu vraiment observer une amélioration du rendement diagnostique de nos analyses. Et donc, on apporte beaucoup plus de réponses à nos patients. Et derrière tout ça, ça permet d'améliorer la recherche, aussi bien clinique pour décrire de nouvelles pathologies très rares, mais également sur des orientations thérapeutiques potentielles, avec quelque chose qui est très en vogue actuellement, qui est le repositionnement thérapeutique, qui consiste à tester des molécules, des traitements qui existent déjà pour d'autres pathologies dans les maladies rares. Et évaluer leur effet quand on a des pistes sur le fonctionnement de la pathologie.
Ce qu'expliquait tout à l'heure votre consoeur, professeur Céline Gréco, notamment sur le traitement de la douleur, où on reprend un médicament, mais pour autre chose, et finalement, ça marche. C'est ça aussi la dimension empirique de la recherche. Docteur Benoît Mazel, merci beaucoup pour votre éclairage. Professeur Gréco, cet exercice particulier, compte tenu de la gravité des atteintes, l'alliance à trois qui se noue dans le soin des enfants concernés par les maladies rares, mais j'imagine quand même que, justement, cette charge affective et émotionnelle, c'est quelque chose qui est tout le temps présent.
Ah bah c'est sûr, et puis en plus c'est des patients qu'on suit pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Enfin,
on grandit avec.
Exactement, et donc on a un vrai attachement pour ces patients.
Un autre point commun à certaines de ces maladies, et qui complique, on peut imaginer cet exercice de la médecine, c'est qu'il n'y a pas de médicaments qui guérissent. Comment est-ce qu'on dit ça à des parents? Ils sont finalement soulagés, ils disent voilà, on a un nom sur les symptômes, on a un nom sur la douleur, sur le mal-être, etc. Mais désolé, on n'a pas de traitement. Comment on fait ça?
En fait, le fait de faire de la clinique et de la recherche permet de dire aux patients, voilà, pour l'instant, on n'a pas de traitement curatif. Et donc, par exemple, si je prends l'exemple du syndrome d'Olmsted, qui est une maladie de peau épouvantable avec des enfants qui ont beaucoup de douleurs et puis de la kératodermie palmoplantaire au niveau des mains et des pieds.
Ça veut dire que c'est de la peau qui pousse. Hein.
C'est ça, c'est de la peau qui pousse, qui donne une couche de corne qui peut aller jusqu'à 10, 20 cm. Ça fait qu'on ne peut pas marcher et c'est très douloureux. Avec le repositionnement de molécules, on a réussi à mettre en rémission ces enfants. Mais c'est une rémission, c'est-à-dire que la mutation est toujours là, donc on arrive à la contrôler.
C'est chronique.
Mais les enfants ne peuvent pas arrêter le traitement. Mais du coup, voilà, c'est ça aussi le but de la recherche. C'est de se dire, écoutez, pour l'instant, grâce au repositionnement de molécules, on a trouvé un traitement peut-être qu'ils vont prendre pendant quelques années, mais qui va les mettre en rémission le temps que la recherche progresse et peut-être que grâce à la thérapie génique ou autre, on arrive à trouver un traitement curatif. Donc moi, en tout cas, je ne m'avoue jamais vaincue, mes collègues non plus, les chercheurs non plus, et donc on essaye de trouver des traitements voilà, qui pallient aux symptômes le temps que l'espoir d'un traitement curatif soit là, et donc je pense qu'on transmet à ses parents aussi, enfin je l'espère
cette
en tout cas,
là.
Cet espoir et cette énergie.
On donne la parole à un patient expert. Marc Thiellet, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes membre de l'association du syndrome Nel Patella. On a compris tout à l'heure que vous connaissiez bien notre invitée, professeure Céline Gréco. Question de base, c'est quoi votre maladie?
Alors, le syndrome Nel Patella, c'est une maladie où on a une multiplicité d'atteintes. Ça se caractérise souvent par des malformations des ongles qui conduit et puis d'autres malformations qui sont au niveau des os, rotules, coudes, des excroissances sur le bassin qu'on appelle les corniliaques, qui a parfois aussi une insuffisance rénale, il peut y avoir aussi du glaucome, il peut avoir des incidences en lien avec tout ce qui est le système nerveux central, donc des douleurs chroniques, des troubles digestifs, un risque majoré pour la dépression et puis une fragilité osseuse, dentaire.
Un tableau très large. Est-ce que certains patients n'ont, entre guillemets, que quelques symptômes quand d'autres cochent toutes les cases?
Alors, on a une vraie variabilité, c'est-à-dire que pour chaque personne, c'est un tableau unique. On a une variabilité de l'atteinte qui peut être de plus légère à beaucoup plus sévère. Et y compris au sein d'une même famille, entre un parent et son enfant.
Il y a un test génétique pour le diagnostic ou pas?
Ah oui, on a un test génétique sur le gène qui est le gène LMX1B et qui permet de diagnostiquer avec une analyse moléculaire le fait qu'on ait ou pas le syndrome Nel-Patella.
On a beaucoup parlé de l'errance diagnostique, hein, Marc Thielet, depuis le début de cette émission. Est-ce que pour vous, ça a été long avant de mettre un nom sur vos douleurs ou vos problèmes de santé ?
Alors, c'est vraiment le point qu'on met beaucoup, beaucoup en avant pour les maladies rares en général. Dans mon cas précis, c'était tout un parcours entre les premiers symptômes que j'ai eu dès l'enfance, suite à des chutes. On a constaté que j'avais des toutes petites rotules qui luxaient. J'ai eu des chirurgies des genoux à 6 ans, 7 ans. Et c'est seulement à la vingtaine que des recherches ont débuté suite à des luxations d'épaule. Et au final, c'est à 29 ans qu'on m'a posé un premier diagnostic qui était erroné. Et c'est seulement à l'âge de 40 ans que j'ai obtenu le diagnostic de syndrome Nel-Patella via mon fils. J'ai 3 enfants et mon fils a le syndrome lui aussi. Et c'est quand on a eu besoin d'étayer, de compenser son handicap au niveau scolaire, au niveau de la mobilité, qu'on a revu des généticiens et qui, à ce moment-là, parce qu'en fait, on a 3 signes d'appel pour diagnostiquer le syndrome, dont celui qui est dermatologique, c'est les ongles. Et moi, je n'ai pas ce signe. Mais mon fils, là, c'est pour vous montrer la variabilité. Et du coup, c'est à travers...
ces symptômes à lui que vous avez pu avoir le nom sur votre propre maladie.
Et donc voilà, moi, je suis président de l'association. Je fais l'écoute pour l'association. Et c'est vraiment, je ne vais pas vous dire 100%, mais l'errance diagnostique, c'est un cas qui est très, très fréquent. Et ce qu'évoquait le docteur Gréco, des personnes qui ont déjà avancé dans la vie et qui se retrouvent elle disait 37 ans, mais voilà, à la quarantaine, avec d'un seul coup une explication à tout un ensemble de problèmes pour lesquels elles avaient vu souvent beaucoup de médecins, sans que jamais
on donne le vrai nom de la maladie. Et donc pour vous, j'imagine, c'est un immense soulagement de savoir ça. Maintenant, sur votre engagement dans la vie associative, qu'est-ce que ça change pour les patients, ceux qui sont informés et ceux qui sont en quête d'information ?
Alors ça change tout. Nous, c'est vraiment un engagement humain et médical et au niveau de la recherche. Mais c'est que d'un seul coup, on n'est plus seul à partir du moment où on a le diagnostic. Le fait qu'il y ait l'association, bah, nous, c'est d'offrir la possibilité aux personnes qui ont le syndrome de sortir de leur isolement, parce que c'est très souvent le cas. Et à part dans leur propre famille, s'il y a d'autres personnes atteintes, elles n'ont pas l'opportunité d'échanger. Et souvent, quand on a un premier contact, en fait, on se sent entendu parce qu'on sait que la personne qu'on a au bout du fil, elle vit les mêmes choses au niveau des douleurs qui peuvent être très, très importantes, au niveau de la multiplicité de consultations, des problématiques pour les adultes, pour les enfants. C'est vraiment cette interface-là. Et puis, d'un seul coup, surtout la possibilité pour les personnes, quand elles rencontrent le diagnostic, de pouvoir bénéficier aussi de la prévention, puisqu'on a le risque au niveau de l'atteinte rénale qui concerne 30 à 50% des malades et pour lequel on peut faire une surveillance. Et aussi au niveau des yeux, avec le glaucome, où il y a 29% contre à peu près, 20% des personnes qui ont ce risque-là et qu'on peut surveiller et intervenir dès que il se passe quelque chose.
Précocement, toute l'importance de l'éducation thérapeutique. Un grand merci à Marc Thielet. On va bien sûr mettre l'adresse de votre association sur la page de l'émission. Professeur Gréco, ce travail avec les associations, j'imagine que c'est vraiment des acteurs clés à côté de vos prises en charge.
Ah bah c'est sûr, et si on prend l'exemple du syndrome de Neil Patella, grâce à l'association, on a pu mettre en place un essai clinique pour un nouveau traitement contre la douleur dont parlait Marc. Et du coup, via l'association, en fait, beaucoup de patients se sont fait connaître, on a pu les prendre en charge. Et aujourd'hui, quand un patient est en errance avec des douleurs dans le cadre de sa pathologie, Marc nous les envoie et ça permet d'accélérer grandement leur prise en charge.
Donc un appui et un relais. Avant de marquer une pause, question d'auditeur sur WhatsApp. Elle a dit au Maroc qui voudrait savoir si le lichen plan buccal est une maladie rare de la peau. Professeur Gréco.
Le lichen plan buccal, c'est 1 à 2% de la population.
Donc, ce n'est pas une maladie rare. Autre question. Cette fois, Conakry en Guinée, c'est Timbo. Il demande s'il est possible de savoir si une femme enceinte peut donner naissance à un enfant albinos. Alors, on parle des maladies dermatologiques. L'albinisme, c'est une maladie génétique qui affecte la pigmentation, mais ce n'est pas une maladie de la peau.
À proprement parler, non. Mais on peut faire un diagnostic prénatal et on sait qu'à peu près 19 gènes sont en cause dans différentes formes d'albinisme.
Et ça ne veut pas dire que si les deux parents ont une peau foncée, donc pas de dépigmentation, pour autant il peut y avoir un enfant qui est atteint d'albinisme qui naît.
Tout à fait.
Professeur Gréco, on va poursuivre cet échange avec des témoignages d'auditeurs, le regard de l'un de vos confrères à Brazzaville, notamment juste après ça avec Fire on the Mountain dans Priorité Santé sur RFI.
There's fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. Now I'm looking out my window, and what do I see? I see an army of a soldier man marching across the street. Hey, hey, Mr. Soldier Man, tomorrow is the day you go to war. Boy, you are fighting for another man's girls, and you don't even know him. Ooh, what did he say to make you so blind to your conscience and reason? Could it be love for your country or for the gun you use in killing? So
Priorité Santé sur RFI, Journée mondiale des maladies rares. Nous sommes toujours avec la professeure Céline Gréco, chef du centre d'évaluation et de traitement de la douleur à l'hôpital Necker Enfants Malades à PHP à Paris. Professeure, il y a la vie à l'hôpital pour les enfants, évidemment. Il y a tout le reste, l'école, grandir. Est-ce que face à des atteintes qui sont parfois sévères, on a dit tout à l'heure, vous y dites vous-même, vous médecin, des maladies horribles, épouvantables, parce que ça fait souffrir et puis ça abîme l'image du corps. C'est parfois difficile à soutenir le regard de ces enfants parce qu'ils ont la peau à vif, ils ont le visage qui n'est plus leur visage. Est-ce qu'il y a systématiquement un accompagnement psychologique ou pas forcément?
un, pas forcément. Donc, dans les services hospitaliers, oui, mais en fait, comme vous le savez, les soins de psychologue ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, si les parents ont les moyens de faire en sorte que l'enfant ait un suivi psychologique, c'est faisable. Parfois, ça ne l'est pas et c'est très difficile.
Donc, il faut qu'il y ait quelque chose. Et là aussi, peuvent jouer les associations dont on parlait tout à l'heure.
Tout à fait.
On va retrouver des témoignages tout de suite.
Priorité santé. Sur RFI.
Et au Congo Brazza, c'est Julesy qui nous a envoyé ce message sur le répondeur de l'émission au 33 761 18 46 41. On l'écoute.
Salut, c'est Julesy. J'ai 31 ans. Je laisse ce message depuis Brazzaville. Mon père, il est âgé de 63 ans et il a été diagnostiqué de la pemphigoïde bulleuse au Maroc en 2019. Et depuis lors, on nous disait qu'il n'y avait toujours pas de traitement. Il a vu plusieurs dermatologues, mais toujours sans suite. Jusqu'à présent, il n'y a toujours pas eu de traitement concret. Il est passé en France et tout, mais il n'y avait pas de traitement pour ça. Et depuis un moment, nous sommes tournés vers les traitements traditionnels, au fait. Il prend des tisanes. Ce sont ces tisanes-là qui le soulagent apparemment. Il y a moins de bulles sur son corps, mais il y en a toujours. Mais ça s'améliore quand même parce qu'il reprend avec le sport. Il est plus vivant maintenant. Je voudrais plutôt savoir si, jusqu'à présent, il n'y a toujours pas eu de traitement concernant cette maladie. Parce que j'aimerais bien que la science puisse évoluer dans ce sens pour essayer d'aider tout le monde et l'aider lui et tous les autres qui peuvent en souffrir ailleurs.
Cette maladie dont parle Julesy, pemphigoïde bulleuse, professeur Céline Gréco. Alors, je le redis, hein, vous n'êtes pas dermatologue, vous êtes spécialisé dans la douleur et en plus en pédiatrie. Malgré tout, on peut avoir des explications. C'est vraiment une maladie rare ?
C'est une maladie rare, auto-immune, qui touche effectivement plus spécifiquement les sujets âgés et donc souvent fragilisés par l'âge et d'autres maladies. Donc, c'est une maladie qui est difficile à prendre en charge. Néanmoins, la recherche progresse et des dermocorticoïdes aux immunosuppresseurs, on est aujourd'hui aux anticorps monoclonaux. Mmh. Et donc ça, c'est un vrai espoir pour cette pathologie de traiter avec maintenant les anticorps monoclonaux. Donc la recherche avance. Néanmoins, ça reste quand même une prise en charge qui est compliquée pour cette pathologie.
Qui est compliquée, puis on va le voir tout à l'heure aussi avec le professeur Dokekias à Brazza. Évidemment, il n'y a pas le même accès aux soins quand on est soigné à l'hôpital Necker on est soigné, par exemple, à Kinshasa, Lubumbashi ou Brazza. Il y a malgré tout des conseils qui peuvent être donnés au niveau clinique par le médecin pour réduire peut-être certains symptômes, éviter les surinfections, les choses
oui,
comme ça.
Voilà, c'est ça. Non, il peut y avoir des conseils de prévention pour limiter les risques infectieux, limiter l'extension de la pathologie. Mais néanmoins, c'est sûr que c'est une vraie inégalité des chances de pas avoir accès à ces nouveaux traitements qui coûtent très cher, mais qui pourraient soulager ces patients.
C'est pour ça qu'on plaide au quotidien pour la couverture santé universelle. Autre message WhatsApp, cette fois c'est Ansa Diguinchor au Sénégal qui évoque l'état de santé de son fils, on l'écoute.
Bonjour, Priorité Santé, j'habite Diguinchor, j'ai mon enfant de 24 ans qui est diagnostiqué lupus systémique depuis 4 ans. Ici le sujet c'est qu'il a une plaie au niveau de la joue gauche liée à cette maladie. Et on lui a prescrit des pommades mais rien ne lui réussit. Et maintenant, je voudrais vraiment avoir l'avis du médecin par rapport à cette plaie apparente. Essayer de voir maintenant comment gérer ça et qu'est-ce qu'il faut faire pour disparaître ces symptômes apparents surtout. Merci, docteur.
Professeur Céline Gréco, alors on dit à Ansa, bien évidemment, on ne fait pas de diagnostic à distance, hein, d'autant plus quand on a des maladies complexes, systémiques comme ça, il faut vraiment voir la personne, la suivre au long cours, avancer avec elle. Malgré tout, il y a ces symptômes articulaires cutanés du lupus, beaucoup de fatigue. Ansa qui s'inquiète sur l'extension possible de la maladie, juste peut-être sur cette maladie, le lupus, là aussi on est face à une maladie rare?
Non, elle est rare, elle est assez fréquente quand même, mais c'est vrai qu'elle a tellement d'atteintes qu'elle est difficile à prendre en charge. Elle est pourvoyeuse de douleurs également. Et c'est vrai que voilà, bon, pour ce type de plaie, encore une fois, je ne suis pas dermatologue et je ne voudrais surtout pas me substituer à eux. Après, je sais que dans nos pathologies, dès lors qu'il n'y a pas d'infection, un traitement simple comme le miel peut permettre d'aider à la cicatrisation des plaies.
Donc, éviter de mettre des produits multiples dessus, mais aller un petit peu à l'essentiel. Et surtout pour votre fils, hein, Ansa, si vous avez des inquiétudes, retournez consulter, posez toutes vos questions aux médecins spécialistes qui peuvent être près de chez vous, à Ziguinchor, voire même à Dakar. On prend maintenant la direction du Congo.
RFI à Brazzaville. FM.
Et en ligne avec nous, professeur Alexis Elira Dokekias. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Professeur titulaire d'hématologie, chef du service d'hématologie au CHU de Brazza au Congo. Également, vous présidez la Société africaine d'hématologie. Alors, depuis le début de l'émission, on souligne les efforts à faire du côté du diagnostic de ces maladies rares. On peut imaginer que la question est encore plus cruciale dans votre contexte, professeur Dokekias.
Merci. Dans notre contexte, il se pose trois problèmes essentiellement. Le premier, celui de l'information et de la sensibilisation. Le deuxième, celui de croyances mystiques. Parce que pour nous, tout ce qui est rare est exceptionnel, donc ça paraît mystique. Donc la longévité avant la prise en charge. Les gens font un parcours de combattants, des tradis praticiens, aux églises de réveil qui promettent bons et merveilles. Et le plus souvent, les gens arrivent à un stade tardif chez nous. Et le troisième problème, c'est le plateau technique pour faire le diagnostic positif. Donc, nous sommes obligés, malheureusement, pour la maladie, la majorité des maladies auto-immunes ou même génétiques, de transférer les échantillons en France.
Professeur Dokekias, juste une petite question technique. Est-ce que vous êtes bien près du téléphone? Parce que ce que vous nous dites, c'est absolument passionnant, mais il y a un petit va-et-vient qui fait qu'on perd un petit peu du sens de vos explications. Donc, ce qu'on a bien compris, c'est que il y a pas mal d'obstacles aux prises en charge. Ça veut dire que certains arrivent avec notamment des complications, j'imagine.
Évidemment, si j'ai suivi le récit tout à l'heure de cette jeune dame qui a une maladie lupique, donc un lupus érythémateux systémique. Vous savez que c'est une maladie, comme a dit ma collègue, qui atteint plusieurs organes à la fois, ou subite, ou alors par échelon. Donc, ça peut atteindre le cœur, les articulations, la peau et le sang, etc., etc. Alors, ce qui suppose que le temps du parcours du patient, quand il arrive chez nous, c'est souvent pour des maladies qui sont tardives. Parce que vous savez que ce qu'on redoute avec ce type de maladie rare, c'est surtout l'atteinte du cœur ou du rein ou du cerveau. Alors, quand ces organes nobles sont atteints, évidemment, la prise en charge devient délicate.
Professeur Dokekias, vous êtes directeur général du Centre national de référence de la drépano et des maladies rares. Dans votre contexte, hein, celui du Congo-Brazza, on peut dire que la drépanocytose, hélas, n'est pas si rare que ça. En revanche, quelles autres grandes maladies rares est-ce que vous traitez? Et d'ailleurs, que celles et ceux qui nous écoutent à Brazza, à Kinshasa ou à Lubumbashi ne connaissent pas le nom. C'est quoi ces maladies un petit peu aussi, on va le dire, bizarres?
Mais elles paraissent bizarres parce qu'elles sont nombreuses.
Ouais.
À chaque auteur qui découvre donne son nom, ce qui fait que donner une liste, ça paraît très délicat.
Ouais.
Ces maladies rares parmi les conduits, la drépanocytose qui n'est pas pour nous rare évidemment. Il y a d'autres maladies du globule rouge comme des déficits des enzymes qui sont héréditaires, qui touchent souvent le garçon. Nous avons dans le cas du sang aussi l'hémophilie, qui est une maladie qui jadis pensait que ça n'existait pas au Congo et en Afrique, mais elle paraît pas fréquente, mais elle est rare, mais elle existe. Et surtout, c'est le problème des maladies auto-immunes dont on parle là. Ce sont les maladies des auto-anticorps, où les anticorps peuvent s'attaquer à des tissus, à des organes. Et ça, c'est le véritable problème parce que nous manageons ces patients ensemble, en coopération avec les autres spécialités, que ce soit les dermatologues, les rhumatologues, les néphrologues, les neurologues, la cardiologue et tout, et j'en passe. Et nous, comme nous sommes comme un pôle de concentration et de coordination, donc, nous essayons de faire ce que nous pouvons faire, mais nous sommes encore, nous avons beaucoup de défis, surtout pour préciser le diagnostic, d'autant que chez nous, dans nos pays, la génétique moléculaire n'est pas bien développée. Deuxièmement, l'immunologie fait ses premiers pas. Nous sommes toujours obligés de faire recours au Nord.
Recours au Nord, parce qu'il y a donc ces freins d'ordre technologique, d'ordre financier. Et j'imagine aussi, parce que vous citiez tout à l'heure les croyances d'ordre de mystique, il y a aussi tous des efforts à faire en termes de sensibilisation, y compris d'ailleurs du côté des soignants.
Évidemment, sensibilisation pour deux choses. D'abord, pour que les gens connaissent qu'est-ce que c'est que ces maladies. Deuxièmement, pour qu'on ne stigmatise pas les patients. Si vous avez quelqu'un qui porte une maladie comme le psoriasis, où la peau de la personne se dégrade, mais on assimile ça à la sorcellerie. Et quand on arrive en milieu de soins, mais je crois qu'il n'y a que 85% d'infirmières qui, au premier contact, se retractent même de porter main au patient pour l'amener, pour qu'on puisse le prendre en charge. Donc, il y a tout ça, il y a des barrières qui sont là, et surtout l'accompagnement psychologique pour faire que ces malades qui ont ces maladies, qui paraissent spectaculaires, que le public comprenne, que les gens ne les stigmatisent pas et qu'on ne les jette pas comme des feuilles de paille chez nos collègues tradis praticiens. Et malheureusement, le type de plaie dont a parlé la jeune dame tout à l'heure à partir de Dakar, parfois c'est la conséquence des manipulations par des substances qui sont nocives, qui altèrent la peau d'un patient qui est déjà suffisamment immunocompromis par la maladie.
On leur met des cataplasmes avec des poudres, on ne sait pas trop ce que c'est, ou des feuilles, et ça dégénère complètement. Est-ce que certains traitements, là par contre des traitements éprouvés, des traitements issus de l'innovation ou de repositionnement des molécules, sont disponibles à Marseille, à Bruxelles, et pas chez vous à Brazzaville ?
Malheureusement, chez nous, encore au Congo et peut-être dans la majorité des États d'Afrique noire, nous disposons bien sûr des immunosuppresseurs. Nous avons donc des corticostéroïdes. Nous avons des familles d'autres immunosuppresseurs. Nous disposons de thérapies des anticorps monoclonaux qui existent. On peut les trouver, mais c'est à quel coût? Je vous donne un seul exemple. Une boîte d'un médicament appelé rituximab, qui est un anti-CD20. Cette boîte de 500 mg, même si on paye, on la commande via la partie de la pharmacie indienne où ça coûte apparemment moins cher, elle coûte 450 €. Mais elle a combien de capsules, pour quelle durée de traitement, en injection, autant pour moi. Donc, le patient doit avoir une injection, peut-être tous les 15 jours, pour pouvoir alléger les symptômes. Et deuxièmement, il y a des thérapies ciblées, des thérapies qui sont bispécifiques pour lesquelles nous ne disposons pas. Donc, comme immunosuppresseur, on en a, mais il faut les manager avec intelligence et une très bonne surveillance, une bonne compréhension, puisque lorsque le patient reçoit un traitement par corticoïde, quand il en sort bouffi, mais les parents peuvent interpréter autrement et retomber chez les tradis praticiens. Donc voilà un peu les difficultés qu'on a. Et puis ces médicaments sont payés cash par le patient.
Et il n'y a pas de remboursement. C'est pour ça que quand on dit que la santé est gratuite en France, elle n'est pas gratuite. Elle a un coût et on la finance chacun. Évidemment, tout ça, ça permet d'être soigné. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Merci infiniment pour votre éclairage, professeur Dokekias. Ces explications, très bonne journée à Brazzaville. On va conclure, professeur Céline Gréco, par un point extrêmement important. On a parlé de l'accompagnement, de la sensibilisation. Maintenant, la recherche pour, on va dire, vos maladies à vous. Est-ce qu'il y a des programmes prometteurs en cours?
Alors en fait, la recherche progresse, on est très soutenu, enfin en ce qui concerne en tout cas dans mon équipe de recherche à l'Institut Imagine, très soutenu par notamment la Fondation Bettencourt-Schuller, par le fonds de dotation et les bords. Sans eux, on ne pourrait pas avancer. Donc la recherche peut progresser si on est soutenu sur le plan financier. C'est une recherche qui coûte extrêmement cher. Et donc en fait,
ça veut dire hôpital public avec des financements privés,
tout à fait,
c'est ce qu'il y a.
Tout à fait, et en fait on en a besoin si on veut pouvoir avancer. Je les remercie vraiment sincèrement de nous permettre de pouvoir accéder à ces innovations thérapeutiques. Et c'est vrai que je pense qu'aussi, on doit reconnaître la chance qu'on a quand même en France de pouvoir quand même avoir accès à ces traitements, même s'il y a beaucoup de chemin encore à faire. Quand on écoute le professeur de Brazzaville, ça me désespère. Enfin, je veux dire, soyons conscients de la chance qu'on a.
Vous avez dit aussi, ce message que vous transmettez aux parents, oui, c'est un message d'espoir. Donc, il faut aller dans ce sens-là.
Ayons de l'espoir, mais soyons surtout vraiment conscients de la chance qu'on a en France d'être pris en charge par la Sécurité sociale.
Évidemment. Vous disiez tout à l'heure, justement, à propos de cet échange, de cette alliance thérapeutique avec les parents, leur donner de l'espoir, vous avez parlé de recherche, il y a des choses sur lesquelles vous dites, on est presque en train de toucher, on va pas dire une grande découverte, une innovation, mais quand même quelque chose qui peut améliorer ce quotidien.
Alors, en tout cas, de notre côté, sur l'équipe de recherche que je dirige, on est en train d'améliorer notre compréhension des mécanismes de la douleur dans les maladies de la peau. Donc on est en train d'essayer de comprendre et on progresse pourquoi le kératinocyte, donc la cellule de la peau, transmet un message douloureux au cerveau. C'est par cette recherche qu'on a pu mettre en rémission ces enfants atteints d'un syndrome d'Olmsted. C'est par cette recherche qu'on arrive à améliorer aussi d'autres patients qui souffrent d'une autre maladie qui s'appelle la pachyonychie congénitale. Vous voyez, donc c'est par cette compréhension des mécanismes de la douleur que parfois on arrive aussi à traiter la lésion et que de la maladie rare, on pourra aussi améliorer la prise en charge des maladies plus fréquentes.
Un dernier message de conclusion, professeur Céline Gréco, par rapport à cette lutte globale contre ces ennemis multiples qui arrivent un peu comme ça en fourmillant ces maladies rares, parce que la notion de mobilisation, elle est très importante. Se mobiliser contre, en parler et ne pas avoir peur de l'autre qui est différent aussi.
Oui, non, tout à fait. Les associations de patients peuvent et nous aider à faire ce travail de sensibilisation. Ce ne sont pas des maladies contagieuses. On peut donner la main à un enfant qui a une ichtyose, un psoriasis, de l'eczéma. Et c'est très important d'être une société plus inclusive aussi pour ces maladies rares.
Et éduquer aussi, quand on a des enfants qui vont bien, à l'acceptation de l'autre. Un grand merci, professeur Céline Gréco, d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Avant de nous dire tout à fait au revoir, on se laisse avec le rythme de Yao Selva. Je sais que je vais mal le prononcer. Le rythme brésilien Maré Bai Soubir sur RFI.
Uma canção pra falar, poucas notas pra falar, meu bem. São palavras pra falar, com você é importante. Tanta história pra contar, lado a lado caminhar faz bem. Sem você não sei trilhar, estrada aberta do presente.
Agora chego,
guiados pelo sol,
nunca se separa.
Eu e você
agora vem brilhar,
juntos na luz do sol,
nunca se separa.
Tão simplesmente no teu colo vou morar, para sempre vou morar, meu bem. Nessa energia solar, brilho que ilumina a gente.
Agora chego,
guiados pelo sol,
nunca se separa.
Eu e você
agora vem brilhar,
juntos na luz do sol,
nunca se separa.
Tão simplesmente.
Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour réalise, prépare votre émission. Ophélie Lassen, Louise Kalédek, Talim Pouo, Victor Hull et Pauline Berthélémy à la réalisation. Demain dans Priorité Santé, on vous proposera de réentendre l'émission Questions de femmes que nous avions consacrée à l'anémie. Dépister cette carence en fer qui peut être associée à une fatigue intense. Quelle prise en charge pour faire remonter le taux d'hémoglobine, notamment chez les femmes? On se donne rendez-vous à 9h10 temps universel. D'ici là, restez à l'écoute et surtout portez-vous bien.
C'était C'était Priorité Santé avec Suno Assurance Burkina Faso, assureur officiel du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.